Et voilà, Onde Noire, deuxième partie. Et nous avons le grand plaisir de retrouver Romain Slocombe. Bonsoir Romain.
Bonsoir.
Et merci beaucoup de vous être libéré pour nous rejoindre ce soir. Je dis se retrouver parce que on était ensemble il y a quelque temps pour parler de votre précédent roman. Et celui-ci est sorti le 28 août. Il s'appelle Avis à mon exécuteur et il est publié chez Robert Laffont. Juste un mot de présentation. C'était un peu, je savais pas par quoi commencer. Quand on vous demande votre métier, vous répondez quoi?
Ah, c'est difficile à dire. Maintenant, c'est écrivain, mais pendant longtemps, ça a été un mélange de tas d'autres choses.
Avant, c'était illustrateur, photographe.
Mais disons que je suis quelqu'un qui travaillait beaucoup dans le domaine du visuel, mais à partir de maintenant, je crois que ces visions, si on peut les appeler ainsi, j'essaie de les transmettre au lecteur par le biais de l'écriture.
Donc finalement, on va peut-être tout simplement dire artiste. Je pense que c'est un terme qui vous convient très bien et oui, qui convient très bien comme introduction à Avis à mon exécuteur, parce que Tchekhov, une petite phrase de Tchekhov, l'artiste devrait être non pas le juge de ses personnages et de leur dire, mais seulement un témoin impartial. Et ça, je trouve que ça convient très très bien à votre dernier ouvrage. Donc parler tout de suite donc de ce roman. Et en gros, tout commence, il y a une première partie où tout commence par la découverte du corps d'un transfuge soviétique qui s'appelle, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Viktor Krebinski. Ça va?
Oui, Krebinski, oui.
Voilà. Et donc il est découvert dans un hôtel à Washington en 1941 et on l'a suicidé. Alors, c'est un personnage inventé, mais vous vous inspirez de quelqu'un qui a réellement existé, qui s'appelait donc Samuel Ginsberg et qui a été réellement assassiné en 1941 aux États-Unis.
Oui, et sous le nom du général Walter Krivitsky. Donc c'est pour ça que pour mon personnage de fiction, j'ai inventé un nom qui est assez proche de l'original, de même que mon personnage est assez proche du véritable Samuel Ginsberg, du véritable Krivitsky. À part que je me suis ménagé un espace de fiction, je n'ai pas voulu faire une biographie, même pas une biographie romancée. C'est véritablement un roman, mais par moment, mon personnage rejoint la réalité de ce qu'a vécu Krivitsky et dit des choses que Krivitsky a véritablement dites.
Et donc, dans cette première partie, il y a déjà quelque chose qui m'a énormément impressionné et beaucoup plu, c'est la minutie impressionnante de la reconstitution de la scène de crime. On dirait que vous y aviez été, que vous étiez présent. Comment vous avez travaillé? Parce que on a parlé donc, vous faites beaucoup de photographies. On a vraiment l'impression que d'avoir des photos, voir un album, voir un bout de film. Il y a une minutie dans cette description incroyable.
Bon, il est vrai que je viens du polar, c'est-à-dire que j'ai une certaine expérience en la matière, et cette scène ressemblait dans sa réalité vraiment à une scène d'un roman noir américain. Et puis j'avais la chance de posséder une bonne biographie en anglais écrite par Gary Kern, un russologue en fait américain, qui était très fasciné par la mort de Krivitsky, qui est un peu un mystère en chambre close, et qu'il a traité avec précision déjà dans sa biographie. Donc évidemment, j'ai bénéficié d'informations supplémentaires, mais dans l'ensemble, j'avais la chance d'avoir une documentation assez précise qui me permettait de faire ce prologue, justement, qui est très glaçant dans son énumération de faits et dans la précision dont vous parliez.
Et mais très belle aussi par ses clairs-obscurs, par ses lumières et par ces noirs aussi, ces espèces de fondus au noir, puisque toute l'histoire va démarrer, mais on est un petit peu perdu au départ, le lecteur, puisque après, justement, va nous être révélée la véritable identité et la véritable histoire de celui qui a été assassiné. Et donc, on va entamer la deuxième partie, qui s'intitule « Le grand mensonge » et qui est en fait, donc, le journal, on peut dire, de ce Krebinski.
Disons que c'est un roman dans le roman, sauf qu'il est présenté, non, je ne dirais pas exactement un journal, mais c'est comme un, et c'est pour ça que le roman s'appelle Avis à mon exécuteur, comme un message qu'il veut laisser avant de mourir, puisqu'il est, il pense qu'il va laisser sa peau dans cette histoire, avec tous ces tueurs staliniens lancés à ses trousses, mais il veut écrire cette fois-ci la vérité, toute la vérité. Et parce qu'il a déjà écrit un roman que mon modèle Krivitsky a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Au service secret de Staline, enfin en anglais In Stalin's Secret Service, et mais où il n'était pas satisfait de ce qu'il avait dit. Il a l'impression un peu que les journalistes américains qui l'ont écrit un peu avec lui n'ont pas tout dit ou ont brodé, etc. Et là, cette fois-ci, il veut dire la vérité et il raconte les racines d'abord de son engagement, puis tout ce qui s'est passé. Il est arrivé à Barcelone et Valence pendant la guerre d'Espagne et son terrifiant voyage à Moscou au printemps 1937, à l'époque où commence la folie des purges ordonnées par Staline, et puis la traque des trotskistes et la manière dont on l'a obligé à participer à la traque de son meilleur ami Ignace Rice,
qui a vraiment existé aussi.
Oui, qui lui est un personnage 100% authentique. Et là, à nouveau, je me suis intéressé à un autre crime, qui est cet assassinat qui a eu lieu dans la banlieue de Lausanne. Et là aussi, une grande précision dans la reconstitution, puisque j'ai réussi à retrouver, enfin en confrontant plusieurs sources, la manière à peu près exacte dont ce crime s'est déroulé.
Ce qui est intéressant, c'est dès le début, donc vous retracez vraiment, enfin c'est Victor qui nous raconte et qui nous retrace tout son itinéraire, et il y a des choses très importantes dans ce livre, dans ce roman. Je rappelle que c'est un roman et que c'est une fiction, parce que au début, il raconte son enthousiasme. Il raconte son enthousiasme d'être un révolutionnaire bolchevique. Vous parlez de l'attrait de l'utopie, la rébellion contre une société injuste. Vous parlez à un moment donné, pardon, c'est Victor qui s'exprime, d'être pur et enthousiaste qui rentre dans la révolution comme des jeunes filles en mai. Et là, c'est des choses qu'on a quand même pas mal oubliées parce qu'ils nous gardent dans l'esprit l'horreur des purges staliniennes. Mais il y a tout cet aspect-là, tout ce côté humain de ces personnes-là qui ont cru longtemps.
Oui, c'est ce que je voulais montrer. Je voulais leur rendre justice. Et une des tragédies, justement, dans la désillusion des communistes et dans les crimes aussi qui ont eu lieu à cette époque, c'est qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire que ces gens ne se sont pas tous désillusionnés d'un coup. Ils ont compris progressivement les uns après les autres, ce qui fait que l'un comprenait et c'était l'autre qui n'avait pas encore compris, qui était chargé d'éliminer le premier. Mmh. Et plus tard, il comprenait à son tour et quelqu'un d'autre devait l'exécuter. C'est cette espèce de décalage dans le temps qui a été la source d'innombrables tragédies. Et la plupart de ces gens, au début, étaient des purs, et ça, je voulais qu'on ne l'oublie pas, parce qu'il faut aussi leur rendre justice.
Et Victor reste un pur très 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 longtemps, alors qu'il est agent du GPU. Alors qu'il va très vite avoir les mains sales, mais pour lui c'est un mal nécessaire. Et il commence, alors vous avez très très vite résumé, on va reprendre des parties. Il commence un petit peu à douter quand il part en Espagne. Et là, moi, je suis tombée de haut, j'ai appris beaucoup 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 de choses. Donc c'est un agent soviétique qui part en Espagne. Moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, quand même, les travailleurs soviétiques et les agents soviétiques avaient été aidés les républicains en Espagne. Mais en fait, Staline s'en est mis plein les poches, en fait.
Oui, il y a la fameuse histoire du vol par Staline, de Staline qui avait exigé en paiement la presque totalité du trésor de la Banque d'Espagne, ce qui est un fait historique reconnu, mais pas connu en fait, qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire.
Hein. Oui, non, pas du tout. Et je pense que ce livre compléterait très bien les livres d'histoire de beaucoup, beaucoup de jeunes adultes actuellement. Et donc là, il commence à douter. Et ce qui est intéressant humainement, c'est ce dialogue constant qu'il a avec son meilleur ami, qui lui doute depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est les arguments qu'avance Victor qui sont absolument passionnants et qui montrent, enfin, qui donnent toute l'humanité et toute cette subtilité, cette finesse à ce récit, parce que il arrive à trouver des arguments qui convainquent le lecteur, alors qu'on sait ce qui va se passer, on sait ce qui s'est passé.
Oui, mais évidemment, d'abord, on ne le savait pas à l'époque. Et deuxièmement, il faut garder à l'esprit que pour la grande majorité des communistes, même quand on pouvait être horrifié ou douté de Staline et penser qu'il se passait peut-être des choses atroces, les communistes avaient toujours en tête que quand même l'Union soviétique était le grand pays où la révolution avait eu lieu. Elle avait forcément des imperfections, mais ces imperfections allaient peut-être disparaître avec le temps, et quoi qu'il en soit, elle jouait quand même un rôle utile, et si on se dégageait d'elle, si on disait des choses contre, à ce moment-là, on se mettait du côté de ses adversaires, on rejoignait le camp des capitalistes, donc il y avait une forme de trahison, ou en tout cas quelque chose de très très contre-productif, et toujours il y avait cette illusion quand même des lendemains qui chantent, et puis on pouvait penser que Staline, que n'étant pas éternel, serait remplacé par un autre dirigeant plus humain, et puis que finalement cette présence de l'Union soviétique qui a tout de même dominé l'échiquier mondial pendant des décennies était un fait quand même globalement positif, et qu'il fallait que cette Union soviétique reste, et il y avait divers moyens de combattre pour elle sans forcément se faire l'esclave de Staline, et c'est toujours ce dilemme qui empêchait les communistes de tourner kazakh, de rejoindre par exemple les trotskistes, et ça c'était le grand pas à franchir, et puis une sorte d'abomination, parce que les trotskistes étant traités de fascistes par les staliniens, on se retrouvait vraiment du côté, ou en tout cas on vous accusait d'être du côté des ennemis, des fascistes, des hitlériens, etc.
Oui, ça c'est très très bien décrit dans le roman, et ça c'est quand même une des choses un petit peu sues, c'est-à-dire qu'il était très facile d'accuser de capitalisme ou d'antisoviétisme primaire toute personne qui pouvait être ennemie, non pas au peuple, mais au petit père des peuples, et d'ainsi de passer, d'être suicidé, d'être exécuté, de finir dans des geôles. Il y a des scènes assez terribles, et justement, donc, terrible, c'est ce qui est intéressant, c'est le mécanisme de la terreur qui est instauré au fur et à mesure. Quand Victor rentre en Russie, en URSS, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et que les grands procès commencent, là, c'est vraiment la terreur qui s'instaure, et sans qu'il y ait fascination, on sent que vous avez été quand même très très intéressé par cette mécanique, cette façon justement que les êtres humains, voilà, parce qu'on exécute les autres, c'est pas nous qui allons être exécutés.
Tout à fait, et puis aussi la volonté de survivre, déjà, on se dit que, pour survivre, il faut dénoncer quelqu'un avant, et puis c'est pas seulement pour se sauver soi, c'est souvent pour sauver sa famille, donc il y avait toujours ce grand chantage de Staline sur les familles, les enfants, dont beaucoup de gens sont morts parce que ils savaient que en échange, il y avait une chance que leurs enfants, eux, ne soient pas persécutés, échappent à l'exécution. Il faut rappeler que la loi soviétique instaurait la peine de mort pour les enfants à partir de 12 ans, quoi. Et ça, c'était quelque chose que les inquisiteurs, les procureurs, etc., ils avaient ce papier sur la table pendant qu'ils interrogeaient les suspects.
Apparemment, il y en avait beaucoup qui n'ont pas été interrogés longtemps, quand même, malheureusement.
Oui, en plus, les procédures étaient extrêmement expéditives, et justement, je décris un petit peu ce système à broyer les gens, et cette machine où on n'avait même pas le temps. De toute façon, c'est pas qu'on voulait pas faire des enquêtes. De toute façon, il y avait tellement de gens arrêtés, puisque ça fonctionnait par quota, qu'on n'avait même pas le temps de faire des enquêtes sur eux.
C'est impressionnant, bon. Parce que cette mécanique d'horreur, là, il y a un tout petit extrait d'un homme qui parle, donc on a découvert par la suite des charniers avec des milliers de gens qui étaient exécutés, et là cet homme dit, en moyenne, j'abats entre 10 et 20 espions, ce sont des espions fascistes, par jour. Sans votre cas, ce serait plus difficile. Il y a aussi un récipient d'eau de Cologne dont on s'asperge avant de repartir. Cela camoufle un peu l'odeur de la poudre et du sang. On se demande comment des êtres humains, enfin des gens comme nous, quoi, ont pu arriver à ces actes-là.
Oui, et je parle même d'une période où les exécutions n'avaient pas atteint leur rythme maximal. Là, c'est le tout début des purges staliniennes.
Oui, puisqu'il y en a, c'est des centaines après qu'ils exécutent par jour.
Oui, voilà, ça passe à des rythmes absolument monstrueux, avec avec ce personnage de Blokhin, par exemple, avec son tablier de caoutchouc pour se protéger des projections de sang. Et d'ailleurs, cette même technique a été utilisée sur les officiers polonais, parce qu'il y a le fameux massacre de Katyn, des prisonniers polonais. Je parle d'une époque un peu plus tardive, mais lorsque l'Union soviétique a envahi la moitié est de la Pologne, toute l'intelligentsia polonaise a été massacrée. Tous ces hommes qui étaient officiers dans l'armée, qui avaient été mobilisés, ont été déportés en Russie, puis tous exécutés dans plusieurs lieux. En fait, Katyn n'est pas le seul endroit où on a exécuté massivement des officiers polonais. Donc cette technique d'exécution était quelque chose qui était développé à une très très grande échelle. Même d'ailleurs le fameux système des nazis d'asphyxier les gens avec le pot d'échappement du camion où ils étaient enfermés avait été également mis au point du côté russe.
Et donc, on voit toutes vos connaissances dans ces quelques minutes. Ce qui reste bluffant, je dirais, moi je suis restée carrément ébahie par la somme de connaissances que représente ce roman. Et j'aimerais un petit peu savoir comment, à partir de dizaines de documents, de certainement centaines et centaines de pages que vous avez lues, cherchées, découvertes. Comment petit à petit comment vous n'êtes pas perdu, comment vous avez construit cette fiction qui se tient de bout en bout et ce journal qu'on ne peut pas lâcher de page en page?
Il faut être bien organisé dans ces techniques de travail. Pour simplifier, disons que j'ai lu, avant de commencer le roman, j'ai lu trois ou quatre œuvres qui étaient vraiment fondamentales, pour y compris évidemment la biographie et le livre de Walter Krivitsky, et puis les biographies qui existent de ses plus proches camarades, comme Alexandre Orlov, qui lui était un tortionnaire, mais qui est également un agent du renseignement soviétique et qui a sévi en Espagne avant de se réfugier aux États-Unis, et puis tout ce que je pouvais trouver sur l'assassinat d'Ignaz Reiss, et puis les témoignages de Gérard Rosenthal, l'avocat trotskiste, tous ces gens ont laissé des autobiographies, donc j'ai lu les parties dont j'avais besoin de ces autobiographies. Il y a également un livre extraordinaire qui est « Sans patrie ni frontières » de Yann Valkin, qu'on peut trouver en poche maintenant, et qui est également l'histoire d'un transfuge. Toutes ces choses-là, je les ai lues. Puis quand j'ai commencé à structurer mon histoire, à voir mon point de départ, j'ai commencé à écrire. Et puis après, tout en écrivant, le soir, je continuais à avancer sur d'autres livres que j'avais achetés, commandés, parce que je les avais trouvés dans les bibliographies des livres que j'avais déjà achetés. Donc, je partais sur d'autres choses, etc., qui nourrissaient mon écriture au fur et à mesure.
Mais qui nourrissent tout ce que raconte Victor. Et j'en reviens un petit peu à la citation de Tchekhov au début. Moi, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup plu dans ce roman et impressionné, c'est que vous arrivez, alors qu'on décrit quand même, on le dit depuis quelques minutes, des choses totalement terribles, c'est que vous arrivez à ne jamais tendre finalement un doigt accusateur envers ces hommes, la plupart de ceux que vous décrivez, des salauds quand même, enfin qu'on peut quand même qualifier de salauds. Et en fait, vous attachez quand même plutôt à sonder au plus profond les tourments de cette âme humaine qui est Victor, finalement. Le vrai sujet du roman, pour moi, il est là, même si, encore une fois, la description de tout ce qui se passe entre 30 et 41 est une somme de connaissances absolument fantastique.
C'est justement ce que vous avez dit qui me touchait dans le personnage de Victor ou de Krivitsky. C'est que je l'ai vraiment choisi parmi parce qu'il y a ses camarades, il y a Ignaz Reiss, il y a Alexandre Orlov, il y a le Hongrois Théodore Mali. Parmi ces transfuges ou ceux qui ont refusé de devenir des transfuges, Victor me plaisait le plus parce qu'il était justement ambigu, il était terriblement humain dans son ambiguïté. Au départ, c'était impur, petit à petit, il est devenu moins, et puis c'est quelqu'un qui, un de ses amis lui dit « Oui, toi, tu sais biaiser, etc., moi, je ne sais pas. » Et c'est vrai qu'il cherche toujours à trouver une échappatoire, il est toujours entre deux, comme ça. Et c'est ce côté un petit peu, cette espèce de grisaille mêlé à une sorte de panique aussi qui monte, qui m'intéressait. Je trouvais que c'était vraiment un personnage de roman et qui justement n'était pas manichéen. Il n'est pas tout blanc, tout à fait, il n'est pas tout noir. C'est pas un salaud, mais il a quand même exécuté des gens. Et puis finalement, il se rend compte que toutes ces illusions étant tombées, le laissant désespéré, il dit qu'il a déjà la tête dans la terre. Mais en même temps, il sait qu'il lui reste encore une chose à faire avant de mourir, c'est sauver ses proches. C'est-à-dire que la seule personne qu'il aime vraiment, il le dit, c'est son petit garçon. Et donc il a une possibilité de sauver son fils et de sauver sa femme, parce que évidemment il sait que dans ces circonstances les familles sont également menacées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va à l'abattoir, si l'on peut dire. Et ben il sait qu'il y a peut-être une possibilité de les sauver eux, et c'est ça qui devient son objectif principal finalement.
Et il passe par je pense un petit peu tous les sentiments humains dans les 400 pages. On voit un petit peu vraiment tout ce qu'il peut ressentir au fur et à mesure de son histoire et au fur et à mesure de cette espèce de fuite éperdue vis-à-vis de l'histoire, mais vis-à-vis aussi de lui-même. Et je parlais du doigt accusateur que vous n'avez pas justement vis-à-vis de ces personnages, sauf peut-être à un moment donné, il y a quand même une exception, une petite diatribe, je dirais presque colère, envers la plupart des intellectuels français, que vous permettez d'ailleurs de citer nom par nom à un moment donné, qui, à l'époque, justifiait totalement les crimes de Staline.
Oui, bah je pense que chaque époque a ses Bernard-Henri Lévy, si l'on peut dire, et il y a toujours des intellectuels. Il y a toujours en France, en tout cas, des intellectuels qui se poussent au premier plan et qui brandissent des étendards comme ça et qui disent il faut s'engager, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais eux, finalement, c'est pas eux qui sont en première ligne dans la réalité des combats, ou quand ils le font, ou alors ils font semblant. Des personnages comme Aragon, puisque c'est lui finalement que je nomme le plus dans mon roman, sont des personnages qui franchement me révulsent, parce que c'est quelqu'un qui au départ était un grand poète, hein. Je le respecte beaucoup en tant que poète, un surréaliste, un artiste de premier plan, et tout à coup, à partir de son engagement dans le Parti communiste, il est devenu un propagandiste vraiment à la solde de tout cela, et en même temps que le Parti communiste français d'ailleurs a beaucoup bénéficié justement déjà de l'aide du Comintern, parce que tous ces partis communistes satellites étaient évidemment téléguidés par le Comintern, qui était la courroie de transmission de Moscou, et puis un bénéfice véritablement financier dans la mesure où la République espagnole aux abois, et ça je le montre dans mon livre, plus que les Espagnols ont été trahis tout de même par le gouvernement socialiste de l'époque, qui n'a pas respecté les contrats de vente d'armes.
Désolé, Romain, je vais être obligé de vous interrompre parce que notre émission touche à sa fin. Je vais vous interrompre pour vous dire que on peut discuter de tout ça avec vous ce week-end, pas loin d'ici, à Moinsartou, puisque vous participez. Voilà, vous participez au festival du livre de Moinsartou. Et puis, je voudrais aussi dire que le livre qui est un peu les prémices de celui-ci, qui s'appelle « Première station avant l'abattoir », eh bien, ressort en poche ces temps-ci.